Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. François Hollande prépare 2017 sans déclarer sa candidature. Lors de sa traditionnelle interview du 14 juillet, le président s'est posé en recours contre les menaces qui pèseraient sur la démocratie française. Avec une cible privilégiée, le Front National, accusé de vouloir disloquer le pays. Dans ce journal, l'analyse de Stéphane Robert et les critiques d'un responsable de l'opposition, Éric Woerth, du parti Les Républicains. Aux États-Unis, Donald Trump aurait choisi son colistier, Mike Pence, le très conservateur gouverneur de l'Indiana. Cette information de la presse américaine n'est pas confirmée. Dans l'entourage du candidat républicain, Charlotte Alix nous appellera de New York. Dans ce journal également, nous reviendrons sur la nomination de Boris Johnson au Foreign Office, l'ancien maire de Londres, et la surprise du premier gouvernement de Theresa May. Boris Johnson qui a multiplié les bourdes diplomatiques dans le passé. Nous verrons cela avec Annabelle Grelier. Moi ou le chaos, François Hollande a posé aujourd'hui les jalons d'une très probable candidature à sa réélection l'an prochain pour le dernier 14 juillet de son quinquennat. Le président a insisté sur les menaces qui pèseraient sur la Maison France, qu'il conviendrait donc de protéger. François Hollande a notamment ciblé le Front National comme péril majeur pour la démocratie française. Alors Stéphane Robert, c'est presque un président en campagne qui s'est exprimé aujourd'hui à la télévision.
L'essentiel du propos de François Hollande sur son éventuelle future candidature en 2017 n'est pas de dire que ce serait bien de le réélire pour poursuivre la même politique afin de tirer les pleins bénéfices de l'action de son premier quinquennat. Non, l'essentiel de son propos est de nous dire que sa candidature ne sera pas seulement souhaitable, mais qu'elle sera nécessaire car il est le seul rempart face à ce qui menace la France.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous menace ? Proposition de dislocation républicaine, de séparation, d'opposition des Français entre eux ?
Vous parlez du Front National.
Front National, oui, vous l'avez reconnu ? Non ! Je dois protéger la Maison France. La Maison France, elle est fragile. Elle peut à tout moment, non pas se lézarder, mais se séparer. Ce que je pense, c'est que l'enjeu de 2017, c'est un enjeu beaucoup plus important que celui de 2012. En 2012, il fallait que le pays se redresse. En 2017, il va falloir que le pays tienne debout, parce que ce qui est en cause en ce moment même, dans le monde, je parle du monde occidental, ce qui nous menace, c'est une atteinte grave à la démocratie. C'est la démocratie elle-même.
La démocratie menacée, François Hollande, candidat par devoir. On a là déjà la tonalité de ce que devrait nous dire le chef de l'État en décembre prochain. Il sera candidat. Au vu de ce qu'il a dit à l'occasion de ce discours du 14 juillet, il ne faut plus en douter. Et on peut voir d'ores et déjà, à travers les arguments avancés, la force de ce qu'est un président candidat. Il se présente, il se représente en tant que chef de l'État, garant de l'unité et de la cohésion de la nation. Il utilisera à plein ce statut, la puissance que lui confère cette position. C'est pour ça que même s'il y a une primaire à gauche, même s'il est à 13% aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, François Hollande reste optimiste. En tout cas, il n'a pas dit son dernier mot.
Stéphane Robert du service politique de France Culture, merci. Les réactions à l'intervention de François Hollande, il n'y en a pas ce soir du côté de Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Alors je vous propose d'écouter Éric Woerth, le secrétaire général du parti Les Républicains, reproche au président d'invoquer sans cesse l'héritage de la droite pour justifier les difficultés actuelles.
Il a dilapidé cet héritage. Il fallait faire tout le contraire de ce qu'il a fait pendant quasiment 2 ans et demi. Et derrière, il nous parle de cohérence. Il y a une sorte d'aveuglement vis-à-vis de sa propre action qui est colossale. Et on peut pas avoir une vision quand on a autant d'aveuglement. Et d'ailleurs, il n'y a pas de vision puisqu'il parle de cohésion comme le mot-clé de ce qu'il faudrait faire. La première des cohésions, c'est une cohésion dans l'équipe. Il n'y a pas de cohésion dans l'équipe puisqu'il y a un premier ministre en guerre ouverte avec un ministre de l'économie. Il y a mieux à faire que cette pantomime à laquelle on assiste entre les membres du gouvernement. Puis je crois que le président, il a honte de son bilan. Il y a plus de chômeurs que jamais. Les déficits publics ont baissé très peu. L'endettement n'a jamais été aussi élevé. Des coups de griffe au mandat précédent de Nicolas Sarkozy, comme s'il n'avait pas définitivement tourné la page. Qu'il était obnubilé par Nicolas Sarkozy et le mandat précédent, qui était un mandat à tout point de vue bien meilleur dans une crise bien plus profonde.
Éric Woerth répondait à Estelle Schmitt à gauche. On retiendra ce tweet de Jean-Luc Mélenchon à l'adresse de François Hollande. Rentre chez toi et dégage. S'agissant d'Emmanuel Macron, François Hollande s'est bien gardé de trancher le cas de son ambitieux ministre de l'économie, comme le souhaiterait pourtant Manuel Valls. Il s'est contenté d'énoncer un principe général. Un ministre doit être solidaire de l'action gouvernementale. Il ne saurait y avoir de démarche personnelle, encore moins présidentielle. Respecter ses règles, c'est rester au gouvernement. Ne pas les respecter, c'est ne pas y rester, a expliqué François Hollande. Enfin, concernant la polémique sur son coiffeur, payé payait près de 10 000 euros bruts par mois. Le président s'est voulu cinglant. « J'ai fait diminuer le budget de l'Élysée. Mon salaire a baissé de 30% et on viendrait me chercher là-dessus. On peut me faire tous les reproches, sauf celui-là », a conclu agacé François Hollande. L'information n'est pas encore officielle, mais elle est donnée par plusieurs grands médias américains. Donald Trump a choisi son colistier, celui qui sera son vice-président en cas de victoire face à Hillary Clinton en novembre prochain. Il s'agirait de Mike Pence, le gouverneur de l'Indiana. La confirmation est attendue demain, mais il vaut mieux rester prudent face au caractère imprévisible du candidat républicain. Une chose est sûre, Mike Pence, âgé de 57 ans, aurait l'avantage de contrebalancer les excès de Donald Trump. On retrouve à New York notre correspondante Charlotte Alix.
Si un candidat choisit son vice-président pour compenser ses propres faiblesses, Mike Pence est un choix sensé. Contrairement à Donald Trump, il connaît parfaitement les arcanes de Washington pour avoir siégé à la Chambre des représentants pendant 12 ans. De nombreux républicains, y compris parmi les anti-Trump, l'apprécient. Il pourrait donc servir de pont entre l'establishment et le candidat. Aussi calme et posé que Donald Trump est exubérant et imprévisible, Mike Pence est un homme qui se décrit comme chrétien, conservateur et républicain dans cet ordre-là. Un ordre qui a toute son importance pour Donald Trump, qui cherche à rallier à lui la frange conservatrice, une frange de l'électorat républicain échaudée par les positions du candidat, parfois très modérées. Pour autant, ce conservateur pur et dur, qui avait provoqué un scandale l'an dernier en approuvant une loi anti-gay, pourrait effrayer les républicains les plus modérés et les indépendants, ce qui ferait évidemment les affaires d'Hillary Clinton.
Charlotte Alix, merci. Donald Trump qui a le vent en poupe dans les derniers sondages. Une enquête CBS New York Times publiée aujourd'hui le donne à égalité avec Hillary Clinton, 40% chacun. La candidate démocrate possédait jusqu'à présent plusieurs points d'avance. La convention républicaine chargée d'investir officiellement Donald Trump aura lieu la semaine prochaine à Cleveland du 18 au 21 juillet. Revenons à présent sur le nouveau gouvernement britannique dirigé par Theresa May. La nouvelle première ministre a fait sensation en choisissant Boris Johnson comme ministre des Affaires étrangères. L'ancien maire de Londres était la figure de proue du camp du Brexit. Il comptait bien profiter de sa victoire pour remplacer David Cameron, mais il a finalement jeté l'éponge et c'est donc un ancien adversaire que Theresa May a installé au Foreign Office. Annabelle Grelier, il s'agit là d'un choix audacieux, car Boris Johnson a multiplié les gaffes diplomatiques dans le passé.
En 2007, lorsqu'Hillary Clinton semblait la mieux placée pour remporter l'élection présidentielle américaine, Boris Johnson avait écrit dans le Daily Telegraph « Elle a des cheveux teints en blond, des lèvres boudeuses et un regard bleu acier comme une infirmière sadique d'un hôpital psychiatrique. Et si Bill peut gérer Hillary, il peut sans doute gérer n'importe quelle crise mondiale. » Misogyne, provocateur, outrancier, les qualificatifs pour le style Bojo ne manquent pas. Ce matin, la presse britannique rappelle ses plus belles perles. George Bush, le Texan bigleux va-t-en-guerre, Obama, un président à moitié kényan, et sa peur de se rendre à New York en raison du risque réel de rencontrer Donald Trump. Boris Johnson se distingue aussi dans les postures ridicules. Il y a des photos ce matin plein les journaux, celle où il plaque brutalement un enfant sur un terrain de rugby au Japon, ou encore celle où il est en costume, casque enfoncé sur les oreilles, pendu à une tyrolienne pendant les Jeux Olympiques de Londres en 2012. Le Daily Mirror en a d'ailleurs fait sa une ce matin et titré « Cher monde, pardon ».
Annabelle Grelier, notre envoyée spéciale à Londres. Les traditionnelles fêtes de la San Fermín à Pamplune en Espagne se passent plutôt mal cette année. La police a enregistré au moins 16 plaintes pour des agressions sexuelles et des viols. 5 hommes ont été écroués pour le viol collectif d'une jeune fille de 18 ans. Ces incidents rappellent ceux de la Saint-Sylvestre à Cologne et ils suscitent une forte émotion en Espagne. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Pamplune pour dénoncer la violence machiste. Retour en France avec la météo, demain, encore des nuages à l'ouest et au nord, avant le retour du soleil en cours de journée. Dans le sud-est, il fera beau et chaud. Attention, en vallée du Rhône, le Mistral soufflera en rafale jusqu'à 100 km/h. Il y aura des orages en Corse. Les températures maximales repartent à la hausse au nord de la Seine. 18 à 22 degrés demain après-midi. Sur le reste du pays, il fera de 22 à 26 degrés et même 30 du côté de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Meta Chiteya.